děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíká. La, 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 la. Jednou stalo, když mě s tým už svlékl, že má petrolejka, blikla naposledy.
Est-ce que justement vous pensez que la France de ce point de vue-là est un peu est très prudente et comparée aux gens avec qui vous pouvez collaborer dans d'autres pays? C'est difficile à dire parce que bon, il y a des chaînes qui, comme effectivement, j'aurais tendance à dire Canal+, La 7 et Océanique sont un peu les seules personnes qui peuvent m'acheter des films. Maintenant, il y a des changements et moi, je suis pas du tout pessimiste quant au documentaire. J'ai l'impression que le documentaire a de plus en plus sa place dans les télévisions, peut-être à des horaires qui sont un peu tardifs, mais qu'en tous les cas, le public a de plus en plus besoin de quelque chose qui ne soit pas uniquement de l'actualité ou du petit reportage, mais quelque chose de plus profond, autant d'un point de vue culturel que politique, et que ça tombe bien. Enfin, j'ai pas peur de l'avenir.
Vous avez l'air de connaître la radio suisse romande et la télévision suisse romande surtout. Est-ce que vous pensez que le film de Sibylle Schoenemann a des chances d'être acheté par la télévision suisse romande?
Mais écoutez, j'aimerais bien. Je vais le savoir très bientôt. Voilà, je vais voir André Hôtelier, je vais lui poser la question.
Vy nechápali vůbec, co se se mnou děje. Lásku totiž vůbec nikdy neviděli. Vodili mě do expresa, tam v pološeru. Vůni lesa, někdy na sekeru. Neviděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíká. La, 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 la. Co se slíká. A tak se jednou stalo, když mě s tým už svlékl, že má petrolejka blikla naposledy. Ten pán se mi vysmál, pak se trochu lekl. To když cítil místo tepla chladné ledy. Smutně jsem se rozloučila s tím posledním pánem. Poprvé jsem tehdy pila koktejl prázdna s ránem. Marně chodím do expresa, bez lampy jsem tmavá. Džinu světlo nevykřesám, z džinu bolí hlava. La, 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 la.
Vous avez entendu la voix de Marta Kubišová, une chanteuse tchèque. Je vous rappelle que vous êtes dans Remue Ménage, Radio Zone Onde Femmes, et que nous parlons du dernier, 13e festival du film de femmes de Créteil. Isabelle, tout à l'heure, nous avons entendu ce que Emmanuel Tréhard racontait à propos de l'organisation d'une tournée qui normalement se faisait après le festival pendant 3 mois. Alors, l'année passée, tu t'étais rendue au week-end où sont sélectionnés les films, comme nous le racontait Emmanuel, parce que nous avions l'intention, la prétention de faire venir les films du festival à Genève, et vu toutes les difficultés qui se sont mises sur notre chemin, dont a entre autres parlé Emmanuel, les frontières, etc., etc., nous avons dû renoncer. Mais enfin, ce week-end ne fut pas quand même perdu, puisque là-bas, tu as rencontré toutes les personnes qui sont intéressées à faire tourner ces films, et dans des lieux des fois, parfois assez particuliers, comme par exemple celui dont s'occupe Gérard Philippe. Alors, qui est Gérard Philippe que tu as rencontré lors de ce week-end de sélection pour la tournée ?
Alors, c'est vrai que parmi toutes les personnes qui viennent chercher cette tournée, en principe, c'est des femmes qui s'occupent d'associations de femmes, de ciné-clubs de lesbiennes, qui sont des déléguées à l'égalité dans les petites villes en France. Il y avait Gérard Petit, qui lui est un assistant social et un opérateur bénévole aimant le cinéma. Alors, il a organisé à Lyon la tournée 88 avec le planning familial, parce qu'il trouve que ça n'a pas de sens, au fond, de venir au festival pour uniquement consommer. Alors, Gérard Petit vient au festival en fait depuis 4 ans. Il travaille notamment comme travailleur social dans un centre d'accueil pour hommes violents à Lyon qui s'adresse à tous les hommes. Je lui ai demandé à qui il aimait en fait faire voir ses films à Lyon.
Bien, alors à Lyon, ben, il se trouve que moi, je suis opérateur à quelques heures, comme ça, de temps en temps, dans 2 cinémas qui sont gérés par une association, donc qui passent soit des films qui ont peu d'impact dans le circuit commercial, soit des films anciens, donc des rétrospectives, soit des thèmes. Et ça rentre tout à fait dans le cadre de ce genre de cinéma, de passer ces films-là. Ce sont bien évidemment des cinémas qui sont en majorité subventionnés par les affaires culturelles, également par la ville de Lyon. Moi, j'y suis sensible parce que je travaille dans une association qui gère un centre d'hébergement pour femmes avec enfants en difficulté. Donc je travaille quotidiennement, mon travail c'est de travailler avec des femmes, donc je suis sensible à toutes les réflexions qui peuvent émerger sur ce que vivent les femmes. Et c'est bien évident que le réseau social lyonnais est le réseau social qui est sensible à ce que vivent les femmes. Et je pense Lyon est une ville où les problèmes d'immigration, par exemple, sont assez sensibles. Et les problèmes des femmes immigrées sont assez sensibles aussi. Et il y a souvent dans les films proposés par Créteil des sujets qui sont très très intéressants, qui permettent de faire des débats. Donc il y a toutes ces personnes-là qui viennent. Il y a les personnes qui aiment le cinéma avant tout. Donc il y a toute une population d'étudiants qui viennent régulièrement dans ce cinéma. Toutes les organisations féministes ou se rapprochant du féminisme. La troisième raison pour laquelle je pourrais dire moi j'ai envie de venir ici, j'ai envie de faire participer et de faire connaître ces films, c'est que moi je suis moi-même, je pourrais m'appeler militant entre guillemets masculiniste, à savoir que depuis plusieurs années, depuis maintenant plus de 10 ans, avec des copains, on réfléchit sur la place de l'homme dans la société, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un désir d'enfant, qu'est-ce que ça veut dire que la contraception masculine, qui commence à arriver petitement sur le marché, alors que nous, ça fait 12 ans qu'on a commencé à expérimenter. Et on était à l'initiative d'un des 4 centres qui existent en France qui traite de la violence conjugale et se propose d'accueillir les hommes qui agissent la violence dans le cadre familial pour leur permettre de modifier leur comportement. Donc il y a toute cette dimension souvent relevée dans les films de femmes, puisque c'est un souci des femmes qu'on a beau imaginer être dans une civilisation évoluée, il y a encore des choses primaires qui ne sont pas dépassées par les hommes ni par les femmes malheureusement. et que ça nous sert de soutien pour faire passer un certain nombre d'idées qui sont peut-être un petit peu neuves encore actuellement, mais je pense que dans 10 ans, ça sera un autre problème. Il sera temps de passer à autre chose. Voilà.
Quelles sont en fait les réactions de ces gens qui vous montrent les films maintenant, ces hommes, dans le cadre de ce centre où vous hébergez des hommes qui seraient susceptibles de violenter les femmes?
Bon, alors, on n'a pas eu l'occasion de montrer uniquement des choses qu'on a récupérées à la télé. Or, Créteil permet parfois des achats à la télévision, soit par Canal+, soit par d'autres télévisions, la 7, la 3, etc. On récupère des films, entre autres, je me souviens d'il y a... Ben maintenant, ça fait 3 ans, il y avait 5 petits courts-métrages d'animation qui s'appelaient Entretien domestique. C'était des courts-métrages hollandais qui traitaient avec beaucoup d'humour les rapports hommes-femmes dans la maison. Les rapports au domestique, à l'entretien de la maison, la répartition des rôles, etc. Toutes choses sur lesquelles on se penche en relation avec l'université de Lyon 2. Et ça sert essentiellement de déclic, ça sert de support, de réflexion, d'amorce de discussion. Et ça permet d'être un petit peu plus vivant, un petit peu plus détendu, plutôt que de se prendre la tête comme ça et de se regarder entre quatre yeux. Ce qu'on fait, c'est quelque chose... Bon, c'est vrai que les hommes qui viennent nous voir sont a priori volontaires, ou tout au moins se disent il y a quelque chose qui coince, j'aimerais pouvoir changer, et je sais que cette association va peut-être me le permettre, donc je viens voir. Et c'est vrai que quand ils voient qu'on parle des choses graves, très graves, de manière assez simple et en utilisant des supports pertinents et légers, ça permet de, ça facilite énormément la parole. Or, on sait très bien que les hommes qui agissent la violence, c'est un, avant tout, ça se manifeste par un problème, une difficulté de parole. Voilà ce que je pourrais dire.
Est-ce que, avec toutes ces expériences, est-ce que le cinéma est un moyen, à votre avis, de faire avancer la chose ou de faire parler ou de permettre à ce qu'on parle de la chose, de la violence, de ces difficultés de communication?
Les films, enfin un mouvement social ne peut pas faire autrement que de s'accompagner d'un mouvement culturel qui est complètement imprégné de ce mouvement social. Et les films sont les témoins de ce qui se passe, de toutes les luttes d'une part, ou de tous les constats qui sont faits, ou de toutes les réflexions qui anticipent ce qui va se passer dans les mouvements sociaux. Donc je crois qu'on baigne dans le culturel, ça peut passer par diverses formes, théâtrales, musicales. On devrait développer à outrance le théâtre, par exemple, dans les écoles, dans les choses comme ça, pour permettre aux gens de s'exprimer, parce que c'est une expression personnelle, et ça commence par ça, être intégré dans la société, ça commence par pouvoir dire j'existe en tant qu'individu. C'est un problème d'autonomie, d'indépendance, qu'on rencontre aussi bien chez les femmes que chez les hommes.
Pour conclure notre émission aujourd'hui sur ce premier rapport de Créteil 91, eh bien nous avons envie de vous faire écouter la fin de notre discussion avec les organisatrices du festival. Rappelez-vous, nous les avions rencontrées en tout premier pour parler des problèmes de distribution. Et pour conclure cette discussion, je leur ai posé l'éternelle question qu'elles doivent entendre 1000 fois les pauvres, mais est-ce que ce label de film de femmes est résolument encore un obstacle pour que les films soient distribués? Qu'est-ce qu'elles, elles en pensent? J'ai posé la question à d'autres personnes, mais elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles en pensent? Dans cette discussion, nous avons rejoint Jackie Buette, et du coup, comme elles étaient un peu toutes là, eh bien, on en a profité en même temps de faire un peu le bilan de ce festival 91.
C'est joint à nous, si jamais elle veut dire quelque chose.
Oui, il y a toujours des gens qui sont très intrigués par
le label film de femme, parce que pour eux, ça renvoie un petit peu à une époque du féminisme. Ils ne le voient pas autrement. Alors que pour nous, bon, le sens s'est beaucoup élargi. Et on a conscience quand même que quelquefois, le label est un peu un problème. Il est ressenti comme quelque chose d'étroit, alors qu'en fait, tous les styles existent au niveau des films de femmes. Les réalisatrices sont toutes très, très différentes. On peut analyser des points communs entre elles. Ça, c'est assez passionnant. D'ailleurs, je trouve qu'en France, on est un petit peu en retard sur l'analyse même du langage. Analyse d'un point de vue un peu plus théorique sur ce qui pourrait rapprocher les différentes réalisatrices dans leur style et qui pourrait marquer une identité de réalisatrice au féminin. Mais vis-à-vis de l'extérieur, il y a encore certains professionnels très réticents. Très français d'ailleurs, c'est une attitude très française, particulièrement en France. On est un pays très macho comme au Japon, quoi.
Moi, je le vois, par exemple, justement, dans la tournée en région parisienne, cinéma à domicile, c'est intéressant parce que je touche un public qui vient très peu ici. Il y a quelques-uns des responsables qui nous accueillent, qui viennent, mais dans les comités d'entreprise, donc dans des entreprises, dans des usines, dans le milieu scolaire, les gens ne vont pas se déplacer jusqu'ici, dans certaines associations non plus. Et j'ai quasiment toujours, la première fois où j'y vais, pas quand je reviens deux ou trois fois, c'est fini. La première question, c'est vous trouvez pas que c'est un peu ghetto, cette histoire de cinéma, de festival de films de femmes? Ensuite, quand ils ont vu les films qu'on a discutés et qu'ils ont vu le genre de films qui étaient présentés, c'est fini. Et au contraire, ces gens-là deviennent des très bons défenseurs du festival, comme les jeunes qui sont en balle en train de faire un débat du jury Graines de Cinéphage, qui, je veux dire, les garçons sont vraiment les meilleurs défenseurs du festival.
Oui, c'est très marrant, parce qu'en fait, c'est tant qu'ils ne sont pas venus, ils ont toujours cet a priori. Sur film de femmes, c'est une formule qui leur fait peur. Hein.
Ils le disent.
Ah ouais. Et ça, la référence au mot femme, et le mot femme fait peur.
Mais c'est pas encore. Pour rajouter sur ce que disait Jackie sur la France, il y a une intervention tout à l'heure encore dans un débat, par contre, d'une jeune étudiante anglaise qui, elle, trouve que le festival n'est pas assez féministe. Elle était très étonnée. Elle dit, mais comment ? D'accord, c'est des films de femmes, mais il n'y a pas beaucoup de films féministes. Mais ça, c'est un point de vue donc anglo-saxon.
Alors, on est pris entre deux critiques. Celle des réalisatrices, parfois, qui ont peur de venir au festival parce qu'elles ont peur d'être cataloguées féministes. Là, il y a un certain nombre de Françaises qui ont eu très peur longtemps. Et puis au contraire, les autres réalisatrices qui trouvent en fait que c'est un peu mou du côté du féminisme, qui aimeraient des débats beaucoup plus controversés, beaucoup plus polémiques, et donc qui sont un petit peu en manque, parce que ça dépend des années. Hein, mais cette année, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grands affrontements sur des idées concernant le statut des femmes. Bon, c'est une année comme ça, plus de découverte des cultures que proprement de la situation des femmes. Mais c'est aussi très intéressant. Hein.
Le choix que vous faites des films, est-ce qu'il y a des films qui sont plus féministes que vous n'auriez pas pris ? Est-ce qu'il y a des films... Est-ce que vous avez eu envie d'élargir au sens culturel vous-même ? C'était un choix de votre part ou bien c'était ce qui se trouvait dans le monde, par rapport aux films ?
Lié au professionnalisme peut-être aussi et la qualité ?
Bah pas vraiment, parce que je dois dire quand même qu'il y a quand même une certaine pénurie des films féministes, disons au sens où il y aurait un message avant la forme. C'est un peu ça la définition du film féministe, c'est le sujet est plus important que la façon dont il est traité. Je crois qu'on est dans une période où les réalisatrices ont quand même mis en avant la manière de faire le film. Et qu'elles attachent beaucoup, beaucoup d'importance à la façon dont est construit le film, fabriquer l'image et ce que dit l'image. Et le sujet, même s'il est aussi un sujet de leur choix, devient pas forcément la première chose. Alors peut-être on est dans une phase comme ça de recentrage sur l'aspect cinéma, et puis bon, ça va peut-être se transformer de nouveau. Et on va peut-être retrouver dans quelques années un point de vue beaucoup plus féministe, c'est-à-dire au sens où les femmes diront « Nous, par exemple, on est contre la guerre ». Bon, ça pourrait être un sujet qu'on va trouver dans quelques années, puisqu'il y a eu quand même une période très dure. Elles n'ont pas encore eu le temps de faire des films là-dessus, mais à mon avis, il va y avoir des films très marqués du point de vue féministe sur la guerre, par exemple.
Mais il y a autre chose qui joue, enfin on en reparle tous les ans, c'est qu'on ne prend que des films, enfin que du support film. Et les films militants sont très souvent sur support vidéo. Ça on le sait parce que par exemple quand il y a eu la section latino-américaine, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas montrées parce qu'elles étaient en vidéo. Un peu partout, c'est un outil qui coûte moins cher, la pellicule coûte moins cher. Donc c'est vrai que là on a toute une partie de ce qui est militant chez les femmes qui nous échappe.
C'est vrai.
Il y a plus qu'à
une vidéo ou vous allez en créer une ou c'est pas votre envie, votre...
On a très envie, puis après on sait plus comment faire parce qu'au niveau de la place, on sait pas comment vraiment l'organiser. L'an dernier, on a fait une section femmes grands reporters. Donc là, on avait ouvert au grand reportage.
Ça a très bien marché, d'ailleurs.
Et c'était de la vidéo, donc on avait vraiment une salle réservée à la vidéo.
C'était pas un choix de notre part d'avoir choisi de la vidéo là, c'est parce que non. Les femmes grands reporters étaient sur vidéo.
Qui nous intéressaient. Et il se trouve que maintenant elles sont à la télévision. Donc on avait forcément pratiquement les 80% des films en vidéo.
Mais ce qu'on voudrait pas, c'est faire une espèce de mini-section vidéo, comme il y a dans beaucoup de festivals, où il y a une petite salle où on passe la vidéo dans le bruit, où c'est pas vraiment une vraie projection. Et c'est, vous avez vu qu'ici, tous les espaces sont pris. Donc c'est vrai que c'est un choix. Puis il faut que quelqu'un s'occupe de la programmation, c'est un autre type de travail.
Ça veut dire que le festival évolue gentiment mais sûrement, mais sans faire de grands changements pour l'instant dans ses orientations. Parce qu'on s'était causé, Jacques, il y a 2 ans pour nous. Bon, là, l'année passée, on s'est dit on ne repose pas les mêmes questions d'une année à l'autre. On peut se dire qu'il n'y a pas de changements fondamentaux, mais peut-être tous les 2 ans, ça vaut la peine de reposer la question.
Ben, le changement quand même, c'est qu'on a été fidèle à une démarche pour découvrir des zones géographiques quand même. Ça, c'était un changement qu'on a fait il y a 3 ans, puisqu'on avait démarré sur l'image des femmes dans les pays arabes. Après, on a fait les Noirs, après, on a fait les Latinos, ça fait 4 ans. Et puis maintenant, les Asiatiques. Donc là, il y avait quand même quelque chose de nouveau pour nous, parce que c'était marquer l'importance de l'appartenance culturelle de base. Pour les réalisatrices. Avant même de dire que ce sont des femmes qui font du cinéma, ce qui nous avait semblé important, c'était de dire ce sont ou des Asiatiques qui font du cinéma, ou des Blacks qui font du cinéma, ou des Latinos qui font du cinéma. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans leur appartenance à une nation, à un territoire, à une culture. Ça permet un peu de décanter toutes les questions sur la spécificité du cinéma au féminin. Parce qu'une fois qu'on a fait la part de ce qui appartient à leur culture, on voit mieux ce qui peut être proche d'une culture à l'autre parce que ce sont des femmes. Enfin, d'un cinéma à l'autre parce que ce sont des femmes. Alors c'est... Comme on réfléchit en même temps qu'on fait, c'est vrai qu'on ne fait pas de grandes ruptures. On progresse, comme ça.
Au niveau des participants, enfin des spectateurs et spectatrices du festival, vous sentez un petit changement ? Là, nous, on discutait un petit peu hier, on trouvait que les gens étaient plus spectateurs, dans le sens qu'ils étaient moins participants, moins actifs. Les gens sont plus spectateurs.
Mais c'est aussi, cette année, au milieu de semaine, ça s'est senti. J'ai trouvé que c'était un public un peu nouveau et qu'il était plus consommateur de films et moins impliqué dans la dimension de la rencontre. Alors que pour nous, c'est très important, la dimension de la rencontre. Donc, il va falloir en tenir compte. Bon, je ne sais pas comment on va gérer ça et inventer des petites stratégies pour les accrocher au débat.
Mais en même temps, c'est contradictoire parce qu'au débat, il y a beaucoup de gens qui restent, qui ne disent pas un mot, mais qui sont hyper attentifs.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je le remarque parce que je fais souvent les enregistrements en bas. Et ils écoutent, mais ils ne posent pas de questions. Et ça, c'est vrai que c'est dur pour les personnes qui animent ou les réalisatrices, mais ils sont là. Et ils ne sont pas en train de parler entre eux, ils sont vraiment attentifs, mais il y a une espèce d'attitude un peu lointaine. Alors qu'il est dû à quoi, je ne sais pas.
Je crois qu'il y a une grande confusion en ce moment. La guerre, il y a tellement de choses.
Mentalement, je crois que les gens sont assez perdus dans leurs repères au niveau de quoi faire quand on est un individu et qu'on n'est pas d'accord avec des choix politiques, quoi faire. Donc les gens sont assez dans l'interrogation sans pouvoir vraiment être satisfaits des possibilités qui existent de se révolter par les manifs, parce que ça paraît un peu parfois limité. Donc il y a une espèce d'interrogation sur le sujet qui serait en opposition avec des choix politiques. Comment exprimer son désaccord ? Et donc les discussions, pour l'instant, c'est un petit peu le retrait, quoi, l'attitude de retrait, parce que peut-être que les gens ont compris que, d'une certaine façon, c'était... Peut-être leur unique façon de résister, c'était de garder certaines réserves, quoi. Parce qu'on ne peut pas les manœuvrer vraiment quand ils se retranchent. Mais bon, je ne sais pas. Hein, c'est une forme de résistance passive, peut-être. Je ne sais pas comment expliquer.
Mais c'est aussi un phénomène de génération, parce que les plus jeunes qui sont dans le festival n'ont pas cette attitude-là. Ils sont ils vont à la rencontre de toutes les réalisatrices qui sont là, des professionnels, ils posent beaucoup de questions. Ils sont très actifs, ils cherchent absolument à rencontrer le maximum de personnes de tous les pays. Et c'est plutôt, en fait, notre génération des plus vieux, des plus vieilles qui est dans cette espèce de silence. Hein. Eux, non, ils sont plutôt plus actifs et ouverts. Et ça, c'est une nouvelle chose. Quand on parlait des nouvelles choses dans le festival, ça fait la deuxième année où il y a ce jury. Et c'est vrai que ça a donné un nouveau souffle. C'est nouveau pour nous d'avoir des gens, puisqu'il y en a qui ont 13-14 ans, qui sont là et qui voient ces films. Et je leur ai demandé ce matin, ils en sont à 30 films en moyenne chacun.
Ça s'est passé comment d'ailleurs la création de Graines de Cinéphage? C'est quand tu es allé par exemple avec le cinéma à domicile dans les écoles que certains ont demandé mais est-ce qu'on pourrait pas intervenir, etc.
On a eu l'idée parce qu'on a essayé il y a au moins 4-5 ans de mettre comme ça dans le programme un ou deux films en les signalant aux enseignants. Puis on s'est dit tiens. Ça fait comme un itinéraire dans le festival. Hein, on leur désigne un ou deux moments où ils peuvent venir dans le festival, où ils se sentiront un peu à l'aise, un peu chez eux. Et ça a bien fonctionné. Et on s'est dit, bon, on va aller plus loin, on va faire une espèce de programme. Et pour valoriser ce programme, eh ben, on va faire un prix. Et pour faire un prix, on va demander à des lycéens de faire partie d'un jury. Et donc, il y a une espèce de... Mais c'est un petit peu notre façon de fonctionner, ça. On improvise à partir de l'expérience, quoi. C'est un peu intuitif au départ. On sent que la chose se décante comme ça. On se dit, tiens, on va l'organiser.
Et du coup, après, ces jeunes se chargent de faire voir ces films aussi. Ils sont aussi dans leurs écoles.
C'est des espèces d'ambassadeurs du festival. C'est-à-dire qu'ils font venir... Il y a à peu près entre 800 et 1000 jeunes qui sont venus, des lycées de ceux qui sont dans le jury. C'est-à-dire qu'ils sont chargés de faire toute une propagande, de coller des affiches, leur expliquer ce qu'il y a comme film, etc. Et donc, les autres viennent avec leurs profs ou sans leurs profs, puisqu'il y a les deux fonctionnements, viennent ici. Donc, pour nous, ça a une courroie d'entraînement vers l'extérieur. Parce que la difficulté, en tout cas en France, c'est qu'on ne rentre pas dans les établissements scolaires très facilement. Il y a tout un côté administratif très lourd à gérer. Moi, quand je fais une projection cinéma à domicile dans un lycée, des fois, il y a des gens qui ont travaillé 2 mois avant pour que je puisse venir une heure présenter un film. Donc le jury Graines de Cinéphage, c'est aussi une façon d'ouvrir les portes plus facilement.
Remerciements également à toutes nos réalisatrices présentes cette année, que j'inviterai volontiers à nous rejoindre, ainsi que nos invités d'honneur. Particulièrement, remercier nos collaborateurs du moment, de jeunes collaborateurs qui sont arrivés sur le festival pour la première fois cette année et qui ont été, au niveau de l'accueil, des professionnels, des réalisatrices, nos grands supporters. Merci donc à toutes les équipes. J'invite les équipes à nous rejoindre. Équipe du festival, équipe des MIC, équipe de la Maison des Arts.
Et bien voilà, il y a la neige qui tombe, c'est la fin du festival, les confettis, les ballons qui s'envolent et c'est à partir de ce moment-là, tout le monde va revoir les films qui ont été primés. C'était la fin de la fête. Alors Isabelle, ce soir on en arrive à la fin de notre première partie sur Créteil puisqu'il y a toute une partie dont nous n'avons absolument pas parlé et dont nous aimerions vous parler. C'est son...
Le regard d'Extrême-Orient ou...
Voilà, l'Orient extrême. Je ne sais pas pourquoi ils disent Orient extrême, d'Extrême-Orient, on s'est trompé souvent. Alors ce sera pour la semaine prochaine où on vous fera entendre notre rencontre avec Sophie Laurent, qui est la jeune personne qui a été responsable de la sélection des films chinois, japonais, vietnamiens, cambodgiens, etc. Nous entendrons aussi la réalisatrice Viet Linh, cambodgienne, qui a eu beaucoup de difficultés à faire voir son film parce qu'il a été censuré au Cambodge. Et nous entendrons quelques extraits du débat que toutes ces réalisatrices ont fait lors de cette fameuse soirée spéciale Orient Extrême. Je crois que, Isabelle, comme disait Marie-Ange en arrivant dans le studio, on doit faire une boucle pour finir notre après-midi. C'est de nous retrouver à Genève en matière de cinéma, parce qu'il n'y a pas qu'à Créteil qu'on montre des films. Et vous rappeler que ce week-end, à Fonction Cinéma à Genève, à la Maison du Grutli, donc le 26, 27 et 28, eh bien vous pourrez voir la sélection des journées de Soleure 91. Et là, il y a tout un programme. Le vendredi, vous pourrez d'abord voir des films genevois. Ensuite, donc ça commence à 18h15. Et ensuite, à 20h, des courts-métrages. À 22h, un film sur ce qui s'est passé à Berne. Le samedi, ça commence à 18h15 avec un documentaire fiction intéressant sur les problèmes de génétique, entre autres, des courts-métrages. Et puis le dimanche, à 18h15, eh bien, le film que a réalisé Isabelle en compagnie de Martin Stricker, La Place, sur les femmes à qui on a enfin octroyé le droit de vote en Appenzell. Et puis un autre long-métrage, Hinter Verschlossenen und Türen, d'Anka Schmidt, que nous avions eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, lorsqu'elle passait à l'usine à Genève. Alors Isabelle, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment à Créteil, qu'on y retourne l'année prochaine.
Oui, on fera aussi un petit bilan la semaine prochaine.
Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Et à maintenant, on vous abandonne dans les bras de la pleine lune qui vous attend avec plaisir. Au revoir.